J'ai le grand bonheur de recevoir en studio cette fois-ci Caroline Lalande, à qui nous avions déjà parlé au téléphone. Caroline est présidente de Mosaïque, cabinet de services financiers. Elle est auteure de livres et également d'un coffret de cartes pour améliorer ses finances personnelles. Et je pense qu'il y en a même un aussi sur la charge mentale. Hein?
Oui, en effet. Bonjour Chantal.
Bonjour Caroline. Ben, j'imagine que ça va un peu de soi, hein, mais c'est nos finances personnelles et la charge mentale, là, ça doit faire travailler le hamster.
Ah, définitivement.
Donc, je voulais qu'on puisse aborder ensemble l'aspect des résolutions basées sur les générations. Donc, à savoir comment notre relation à l'argent et les décisions financières qu'on va prendre vont changer selon la génération à laquelle on appartient. Parce que j'imagine là, que ça me confirmer qu'il y a une différence là, au fil du temps.
Oui, définitivement. En fait, nos besoins financiers et nos objectifs diffèrent selon où on est rendu dans notre vie. Et en effet, janvier, c'est le temps des résolutions. C'est un bon temps pour se remettre en question. Outre, évidemment, certaines mauvaises surprises, comme par exemple la réception de nos relevés de cartes de crédit du temps des fêtes, etc., janvier, c'est généralement propice pour faire une espèce de bilan personnel et de voir où on en est rendu. Bien entendu, selon notre âge, nos objectifs sont différents. Donc, par exemple, un jeune de 20-30 ans qui débute sur le marché du travail, bon, peut-être que les objectifs sont plus orientés vers l'achat d'une maison, une meilleure gestion des dettes, des mauvaises dettes, de nos cartes de crédit, etc. L'apprentissage aussi de comment gérer notre budget. Et puis, ensuite, plus on avance en âge, bien là, évidemment, toute la discipline de l'épargne en vue de la retraite devient de plus en plus importante.
Mais reste que je pense qu'on ne peut jamais assez le dire. Probablement que plusieurs de nos auditeurs n'ont pas cet âge, mais ont des enfants ou des petits-enfants. Et justement, moi, hier, j'ai un fils de 27 ans qui a un nouvel emploi et qui va se dégager une belle marge de manœuvre financière. Et je lui ai réitéré l'importance là, de l'intérêt composé. Et je pense que vous avez une belle image hein, pour illustrer ça, l'intérêt composé.
Oui, en fait, j'aime beaucoup imaginer les choses parce que les finances, des fois, c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Donc, je trouve de mettre une image, ça facilite sa compréhension. En fait, quand on met de l'argent de côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire des intérêts. Et au fur et à mesure que le temps avance, le montant accumulé va grandir. C'est un peu comme quand on fait un bonhomme de neige. On parle de tempête hein, au mois de janvier. Donc, quand on commence notre boule de neige, elle est tout petite. Et au fur et à mesure où on pousse la neige, la balle grandit, la boule grandit, et elle attrape de plus en plus de neige. Donc, après, sa croissance devient beaucoup plus rapide. C'est exactement la même chose avec nos épargnes.
Donc, c'est vraiment de prendre l'habitude, ce qui veut dire, par exemple, j'imagine vous recommander peut-être des prélèvements autorisés.
Il y a plein de façons de fonctionner, tout dépendant aussi de notre travail. Par exemple, un travailleur autonome n'a peut-être pas la capacité de prélever son jour de paye, alors que quelqu'un qui a des payes régulières peut dire, ben moi, je vais faire un prélèvement à chaque fois où l'argent de ma paye entre. Donc, il y a différentes façons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Hein. Il y a des solutions adaptées à notre situation. Mais en effet, de mettre des petits montants de façon régulière, c'est excellent. Et au fur et à mesure qu'on s'adapte à cette nouvelle dépense, ben c'est d'augmenter un petit peu le montant pour évidemment, finalement, arriver à notre objectif financier.
Donc, si nos auditeurs ont des enfants ou des petits-enfants de cet âge-là, quels conseils là, ils pourraient leur donner?
Mais je pense que le premier conseil, c'est d'avoir une certaine ouverture avec nos enfants, de leur parler de l'importance de la discipline d'épargne et de mettre en place quelque chose. Et souvent, on pense qu'il faut que ce soit des gros montants. Non. Pour certaines personnes, c'est 5 $ mis de côté. Il y en a d'autres, c'est 25. Il y en a d'autres, c'est 100. Peu importe. L'important, c'est d'entamer la discipline et d'essayer d'augmenter un petit peu à chaque année. Évidemment, quand on a une ouverture avec nos enfants, mais on leur facilite parce qu'on aura beau dire comme parents l'éducation, ça devient un peu notre responsabilité.
Oui, d'ailleurs, mon plus jeune fils de 17 ans, je lui ai dit qu'on ferait son budget en début d'année, puis il m'a répondu « Est-ce que je suis obligée?
» On voit déjà l'intérêt.
Oui, parlant d'intérêt. Mais en fait, c'est très drôle parce qu'il a gagné un concours de simulation boursière. Donc, il y a quand même un certain intérêt, mais c'est juste que ce que je trouve extraordinaire du budget, c'est que ça nous amène à se poser des vraies questions sur nos dépenses. Et j'ai l'impression que là, avec la pandémie, ça a probablement amené plusieurs personnes à revoir leurs dépenses.
Oui, en fait, ce qui est très particulier, c'est que la pandémie a créé deux choses complètement distinctes. Certaines personnes se sont retrouvées vraiment avec des montants moindres, se sont retrouvées dans mm-hmm. une détresse financière, et ce n'est pas à sous-estimer. Par contre, d'autres personnes ont été en mesure de maintenir leur emploi, de maintenir leur rythme de vie, mais tout à coup ne pouvaient plus autant dépenser. Donc, il y a eu une espèce de prise de conscience sur où va notre argent. On fait beaucoup de dépenses sans réfléchir. Mm-hmm. Et la pandémie aura ça de beau parce que moi, bon, je suis une éternelle optimiste.
Ça a l'air que c'est mieux pour la santé.
Oui, c'est ça. Donc, je vois toujours le beau, peu importe la situation, ou du moins, j'essaie de trouver le beau. Et donc, de se poser la question sur nos dépenses, ça amène plein de choses. Et de un, on peut arrêter de dépenser pour des choses qui finalement ne sont pas du tout significatives. Et ensuite, quand on prend cette décision-là, on le fait de façon consciencieuse et on l'apprécie d'autant plus parce que c'est un choix qu'on a fait. Et en fait, ce que plusieurs articles que je lisais disent, c'est que l'épargne va être augmentée beaucoup parce que les gens ont dû réduire leurs dépenses. Il y a une bonne portion qui ont pu maintenir les revenus mm-hmm. et donc cet excédent-là va s'en aller à l'épargne.
Mais je regarde juste quand on fait nos courses en ce moment, évidemment, nous sommes tenus là, aux articles essentiels. Et j'avais une amie qui me disait qu'avec sa conseillère financière, elle s'est rendue compte qu'un poste budgétaire qu'elle avait sous-estimé, c'est tous les petits trucs à la pharmacie qu'elle achetait, un petit peu comme ça, sans nécessairement y penser, mais que là, il y a des gros X dessus. Donc, on ne peut même pas les acheter, mais elle s'est rendue compte que ça représentait quand même un bon montant.
Oui, c'est un excellent exemple, en fait, de petites dépenses comme ça. Et à ce moment-là, viendra à elle la décision, est-ce que je continue mes anciennes habitudes ou ce que je reprends plutôt, je devrais plutôt dire, reprends mes anciennes habitudes ou je fais le choix, finalement, mm-hmm. de ne pas continuer ou encore de le faire, mais quand je le fais, c'est vraiment de façon posée.
Bien, je dirais que malheureusement, effectivement, il y a des moments plus difficiles dans la vie et qui nous obligent à scruter, à sortir la loupe pour regarder de façon plus étroite, par exemple, nos assurances. Est-ce qu'on est trop assuré? Est-ce qu'on est mal assuré? Est-ce qu'on paye trop? Un paquet de dépenses comme ça, moi, personnellement, bien, comme plusieurs, hein, c'est les voyages, les soupers au resto, les vêtements qui ont écopé. Mais en même temps, je me suis dit, je ne crois pas que je voudrais maintenir ce type de dépenses-là. Par exemple, j'ai commencé à m'habiller dans les friperies. J'ai découvert un paquet de friperies extraordinaires et au niveau conscience écologique, ça m'a vraiment rassurée avec mes valeurs. Et je me suis dit, tiens, probablement que je vais avoir envie aussi de recevoir plus à la maison, d'autant que là, on a eu le temps pour tester des nouvelles recettes.
Oui, c'est ça. Donc, je pense que les habitudes vont changer. Il va y avoir toute une portion de la population, bien entendu, qui vont juste revenir à leurs bonnes vieilles habitudes, comme on dit. Mais la pandémie aura permis à plusieurs de se questionner, ce qui est, je crois, excellent.
Et comment on pourrait, là, c'est le bon temps pour le faire, vraiment regarder ce qu'on a dépensé l'année dernière et se dire, tiens, voici l'objectif que je me fixe, là, et je fais soit un prélèvement ou je prends une décision claire et consciente.
Oui, on dit qu'habituellement, là, avoir une nouvelle dépense dans notre budget, ça prend 3 à 6 mois à assimiler, en fait, avant qu'on s'en rende plus vraiment compte. Donc, pour certaines personnes, ils ont des gestions budgétaires mieux serrées. Pour d'autres, pas du tout de budget. Il y en a qui ne sont pas capables de faire un budget. Donc, pour ceux qui ne sont pas capables de faire un budget, je pense qu'une des bonnes choses à faire, c'est d'arrêter de payer de différentes méthodes. Soit on paye tout comptant, mm-hmm. soit on paye tout Interac, ou soit on paye tout carte de crédit qu'on paye intégralement à la fin du mois, bien entendu, parce qu'on ne veut pas payer d'intérêt très élevé. Donc, si on fait ça, on a une meilleure vision globale de nos dépenses. Et là, on essaie d'incorporer une discipline de placement qu'on maintient et puis éventuellement qu'on augmente.
Mais c'est surtout que je trouve qu'il y a des outils financiers, la plupart des banques ont des modules ou des applications qui caractérisent ou catégorisent déjà les dépenses.
Oui, tout à fait. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. La technologie nous a permis plein de choses. Par contre, il ne faut jamais oublier l'importance du conseil. Donc, moi, je dis toujours à mes clients, mais aussi aux gens de mon entourage ou les gens qui ne sont pas nécessairement dans ma clientèle, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien les finances, qui est en mesure de vous appuyer, de vous conseiller pour votre situation en particulier. Parce qu'on n'est généralement pas très bon pour se conseiller soi-même. Et j'en suis le premier exemple. Je suis obligée de demander l'avis d'une collègue souvent.
C'est bon. Ben, je pense qu'il y avait une étude qui disait justement que le trois quarts des Canadiens là, cherchent des conseils, entre autres de retraite, là, suite à la pandémie.
Oui, puis souvent, on a une mauvaise compréhension de ce qu'on a. Et les REER, c'est un bon exemple. On en parle tellement qu'on a l'impression que tout le monde sait c'est quoi. Et souvent, on est gêné de poser la question, c'est quoi vraiment un REER? Donc, c'est important d'avoir quelqu'un de confiance en qui on peut poser des questions.
Parfait, Caroline, on va en musique et après la pause, nous allons discuter des familles. Donc, Money, Money, Money de ABBA. Alors, de retour avec Caroline Lalande, présidente de Mosaïque, cabinet de services financiers. On parle des résolutions financières. On va parler très rapidement des familles avec enfants qui sont toujours à la maison, mais je veux qu'on se garde plus de temps pour discuter de ceux qui sont à l'aube de la retraite et à la retraite parce que j'ai l'impression que ça couvre peut-être un pan plus large de nos auditeurs. Donc, peut-être là, quelques petits conseils pour les familles.
Oui, donc pour les familles, ben, on connaît beaucoup le régime enregistré d'épargne études. Donc, c'est un programme qui nous permet de mettre de côté de l'argent pour nos enfants. Le gouvernement vient bonifier pour leurs études. C'est important de connaître que le programme existe, de regarder si c'est bon pour nous. Puis de savoir aussi si, par exemple, on vit avec un enfant différent. Si jamais il ne va pas aux études, il y a toujours la possibilité de rouler dans un RI, le régime enregistré d'épargne invalidité. Mm-hmm. Donc, à chaque année, on a un nouveau droit. C'est le début de l'année. Donc, c'est le bon moment pour en discuter avec votre conseiller. Aussi, la période REER s'en vient. Mm-hmm. Il ne faut jamais oublier que lorsque l'on prend des REER, cela vient faire réduire notre revenu familial. Et c'est le revenu familial qui est considéré pour le montant des allocations qu'on reçoit au niveau gouvernemental. Donc, de prendre un REER peut non seulement avoir des bénéfices sur un retour d'impôt potentiel qu'on peut avoir, mais aussi d'augmenter nos allocations familiales, ce qui n'est pas peu dire.
Mm-hmm. C'est bon. Donc, maintenant, ceux qui sont à l'aube de la retraite. Bon, moi, j'ai 51 ans. Je ne crois pas que la retraite est pour bientôt, mais il reste que, on ne sait jamais, on ne connaît pas l'avenir. Et il reste que j'ai pas, disons, j'ai plus d'années professionnelles derrière moi, probablement. Donc, pour mon groupe d'âge, là, quelles seraient les meilleures résolutions?
Oui. Donc, plus on approche de la retraite, il va arriver quelque chose qui est naturel. C'est qu'on vient avec une certaine aversion pour le risque. Donc, quand on parle de placement, évidemment, cette année, ben, en fait, c'était l'an dernier, je devrais plutôt dire, on est en nouvelle année déjà. Donc, l'an dernier a été un bon test. On a vécu la pandémie et on a vu la chute des marchés boursiers.
Ouais.
Et là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, pas parce que c'est arrivé, mais j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça m'a permis vraiment de connaître ma clientèle. J'ai vu
en
ceux
effet, ouais.
qui m'avaient dit qu'ils étaient capables de vivre des baisses et qui ne l'étaient pas versus ceux qui l'ont très, très bien vécu alors qu'ils pensaient avoir de la difficulté. Moi, comme conseillère, ça m'a permis de vraiment bien connaître ma clientèle.
Et de vous adapter en conséquence.
Oui, ouais. Parce que c'est important de nous respecter. Il faut toujours se respecter en finance parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas du tout rationnel, c'est très émotif.
Mm-hmm.
Quand on parle de nos sous, c'est émotif. Il faut être en mesure de dormir après avoir vu son relevé. Et donc, la pandémie a créé chez certaines personnes une crainte des crashs boursiers, en fait, malgré le fait que tout a été récupéré très rapidement.
Mm-hmm.
Mais quand on l'a vécu, et même après, il y a certaines personnes qui sont restées avec une grande aversion au risque. Et cette aversion-là, finalement, plus on vieillit, plus elle augmente. Et là vient toujours la bonne combinaison de dire, est-ce qu'on ramène notre risque? On devrait, si on n'est pas à l'aise, définitivement. Mais il faut toujours faire attention à ce que nos placements puissent générer suffisamment pour convenir à nos besoins de retraite.
Et bon, si on parle justement plus des retraités, je lisais dans une étude là, que vous m'avez fait parvenir que 80% des retraités jugent qu'ils ne sont pas bien informés à propos de leur pension. 80,
oui.
C'est quand même élevé.
C'est énorme. Il y a plusieurs choses, en fait. Premièrement, contrairement à moi, je pense que la majorité des gens n'ont pas tant d'intérêt envers les finances, malheureusement. Moi, j'aime ça, j'en mange, etc. J'en ai fait ma carrière. Mais pour certains, ils n'aiment pas du tout en parler.
Donc, en même temps, ça, c'est lié, on dit on en mange, hein, ça nous permet de justement bien manger, puis pouvoir profiter de la vie ou assurer notre confort.
Donc souvent, je me dis c'est un mal nécessaire. Mm-hmm. Moi, je pense que le conseil est très important. C'est important de trouver une personne en qui on a confiance, qui est capable de nous épauler à travers le temps. Et cette personne-là pourra nous expliquer et nous suivre et nous faire comprendre certaines choses à travers le temps. Donc, le conseil est très important. Les gens, souvent, sont moins informés. En fait, les personnes plus âgées avaient des fonds de pension. Mm-hmm. Le fonds de pension, il y a des côtés extraordinairement beaux du fonds de pension. Mais une chose que ça l'a provoqué, c'est qu'on se laisse bercer sans se poser de questions.
Mm-hmm.
On ne prend pas en charge du tout nos finances à la retraite. Donc, les gens disent, moi, si je travaille 30 ans, je suis correct, j'ai mon full fonds de pension, comme on dit.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, c'est plus tellement vrai parce que de moins en moins de gens ont des fonds de pension et ceux qui ont des placements avec l'employeur, bien, se doivent de prendre en charge leur retraite. Et donc, on est en train, finalement, d'amener la responsabilité vers l'individu. Et là, il y a comme une espèce de rattrapage qui doit être fait sur bien comprendre comment ça fonctionne, les rouages, puis voir si on est vers le bon chemin, finalement.
Je me dis aussi en termes d'éducation financière, des fois on pense à notre futur, mais il reste que parfois il y a des dépenses actuellement dans le présent qui sont peut-être pas les plus judicieuses ou les plus optimales, qui ont un effet justement pervers sur le futur. Donc de s'y intéresser au présent, ça a un grand impact sur le futur.
Oui, tout à fait. Puis quand on parle d'endettement, tantôt, entre autres, il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Et il y a des supposément bonnes dettes qui peuvent devenir des mauvaises dettes si elles sont excessives. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de généraliser. Quand on parle, par exemple, de bonnes dettes, on parle de maisons, on parle de dettes qui génèrent des actifs. Donc, par exemple, une maison, par exemple, si on emprunte pour prendre un REER, donc ce sont des pratiques qui se font assez couramment. Par contre, si on emprunte pour prendre un REER, mais qu'on est obligé, parce qu'on paye ce REER-là, de mettre des montants sur une carte de crédit à 19 %, mm-hmm. c'est un exemple où une bonne dette devient une mauvaise dette, finalement.
Oui. Et donc, justement, pour ceux qui ont fini là, de contribuer à leur REER et qui doivent décaisser peut-être des derniers conseils...
Oui, donc à l'aube de la retraite, le conseil devient très important. Moi, je suggère toujours aux gens, premièrement, de diversifier leur portefeuille. Donc, on voit souvent des gens qui ont ce qu'on appelle un fonds équilibré. Mm-hmm. Donc, ils me disent, Caroline, je suis diversifiée parce que c'est un fonds équilibré. Oui, je comprends, mais moi, ce que j'aimerais voir sur un relevé, c'est plusieurs fonds. Donc, mm-hmm. 3 ou 4 fonds. Ce qui veut dire que si, par exemple, on vit une chute financière comme on a vécu au printemps et que vous avez besoin de 5 000 $ mais si j'ai 3 ou 4 fonds, dont 1 ou 2 est très peu risqué, mm-hmm. ça me permet d'aller décaisser à ces endroits-là qui n'ont pas subi de perte. Ce qu'il faut bien comprendre, que quand notre relevé indique moins 5, on n'a pas réellement perdu moins 5 %. C'est que nos placements ont diminué, mais si on leur laisse le temps de remonter, on n'aura rien perdu. On perd réellement quand on va chercher les montants quand on est dans le négatif. Donc, de bien diversifier nos portefeuilles. Et ensuite, quand on met des montants, quand on investit des montants, on essaie de ne pas jouer à la loto de la journée de l'investissement. Ce qu'on veut, c'est un rendement constant. Donc, si par exemple, quelqu'un a un petit héritage, décide de mettre 20 000 $ il peut mettre 1 000 $ par semaine pendant 20 semaines. On vient niveler le risque.
Hey, Caroline Lalande, on se reparle une prochaine fois. Merci
beaucoup.